Alors récemment, dans une étude biblique, j'avais partagé une de mes réflexions dans ma lecture quotidienne, donc quelque chose qui m'avait touché, et j'aimerais reprendre un peu ce que j'avais dit pour introduire ce message ce matin. Alors je lisais l'évangile de Matthieu, et plus exactement le récit avec les mages venus d'Orient pour offrir des cadeaux aux petits enfants, et arrivé auprès du roi Hérode, ils ont demandé à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et là, Hérode, il comprend pas, il se dit, mais comment ça, un roi des Juifs ici? Alors tout de suite, il fait appeler les Juifs, les scribes et tous les sacrificateurs et il leur demande, mais c'est quoi ce roi et où doit-il naître? Alors, eh bien, ils ont pris les rouleaux, ils ont déroulé et puis ils ont pu lire ce passage et j'aimerais qu'on prenne Matthieu 2, 5 et 6. Donc, ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc voilà la prophétie qui était donnée, et donc ils ont pu donner cette prophétie à Hérode hein, pour qu'il sache exactement où le petit enfant allait naître. Hein. Et donc il est parlé de « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales de Juda. » Et non, Bethléem n'est pas la cité insignifiante des terres de Juda, bien qu'humainement, Bethléem, c'était vraiment une petite ville. C'était une bourgade, c'était peut-être quelques maisons ensemble, hein, un petit village en fait, hein, un point minuscule sur la carte. Hein. Mais parce que le Fils de Dieu est né à cet endroit, parce qu'il est né à Bethléem, ben, soudain cette ville, elle a été connue, elle a été élevée, elle est devenue une ville qu'on connaît dans le monde entier. Aujourd'hui, en ce moment, c'est la période des pèlerinages. Hein, il y a plein de gens qui vont à Bethléem. Parce que, eh bien, Jésus-Christ est né là-bas. Et c'est vraiment la présence du Seigneur dans cette ville qui a tout changé. Et c'est la présence aussi dans nos vies, hein, la présence de Jésus qui change tout et qui fait que, eh bien, on peut, voilà, on est élevé par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ. Voilà, la petite ville entre les milliers de Juda. Et j'aimerais vous parler ce matin des petites choses ou des petites personnes ou des faibles commencements. Voilà, ça va être un peu le sujet, le thème. Et Dieu n'est pas comme nous, il ne fonctionne pas comme nous. Si nous, on avait dû choisir la ville où Jésus allait naître, si on était Dieu, peut-être qu'on se serait dit, pardon? Los Angeles n'était pas encore créé, donc ça ne serait pas ça. Mais Jérusalem, peut-être, hein? On se serait dit, mais Jérusalem, c'est la ville du grand roi, c'est la grande ville. En plus, Jésus naît à Jérusalem. Jésus est crucifié à Jérusalem, la boucle est bouclée, c'est beau, c'est parfait. Et non, c'est pas ce que Dieu a décidé. Il a décidé de se tourner vers un petit village insignifiant sur la carte qu'on voyait à peine, une ville négligeable qui n'aura qu'une étable à offrir au roi des rois, au Fils de Dieu. Et la première chose qu'on peut voir ensemble ce matin, c'est que Dieu se sert de ce qui est petit pour le glorifier. Il y a quelques mois, on avait vu ensemble l'onction du roi David. L'onction du roi David. Mais qui était-il à l'origine? C'était voilà, le plus jeune des fils, c'était le plus petit, peut-être le moins qualifié à vue humaine pour devenir le roi d'Israël. Et pourtant, c'était celui-là que Dieu avait choisi. Et même Samuel, le prophète, il regarde à l'apparence et puis il voit un autre fils. Il se dit, mais celui-là, il a la carrure, celui-là, voilà, il a de la maturité, c'est déjà un homme, c'est lui le roi d'Israël. Et Dieu dit, non, je ne regarde pas à l'apparence, mais je regarde au cœur. Que penser des 12 disciples que Jésus a choisis, les 12 apôtres? Quand vous les regardez un petit peu, qui aurait parié sur ces hommes-là pour faire l'œuvre qu'ils ont fait après? Quand vous regardez les évangiles, vous dites, mais spirituellement, c'est une équipe de bras cassés, quoi. Hein, qu'est-ce qu'on va faire avec eux, avec ces 12 hommes? On m'a donné, il y a quelques mois, un rapport imaginaire d'une société de consultants. Alors, j'aimerais vous le lire. Donc, le sujet, c'est l'évaluation des aptitudes au management des disciples de Jésus. Donc, c'est adressé à l'attention de Jésus de Nazareth. Merci de nous avoir soumis les CV des 12 hommes que vous avez choisis à des postes dans le management de votre nouvelle organisation. Ils sont tous passés par une batterie de tests à la fin desquels nous avons analysé leurs réponses par ordinateur, mais aussi par des entretiens personnels avec notre psychologue et notre consultant en aptitude professionnelle. L'opinion de notre équipe est que la plupart de vos candidats manquent d'arrière-plan, d'éducation, d'aptitude professionnelle pour le type d'entreprise que vous formez. Ils n'ont pas d'esprit d'équipe. Nous vous recommandons de continuer de chercher des personnes d'expérience et plus capables en matière de management. Simon-Pierre est émotionnellement instable et sujet à des crises de colère. André ne possède aucune qualité de leader. Les deux frères Jacques et Jean, les fils de Zébédée, placent l'intérêt personnel au-dessus de la loyauté d'entreprise. Thomas a une attitude de scepticisme qui tend à miner le moral des troupes. Nous pensons que c'est aussi notre devoir de mentionner que Matthieu a été récemment radié du bureau des publicains de Jérusalem. Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée ont des tendances radicales et ont obtenu des scores dangereusement élevés sur l'échelle maniaco-dépressive. L'un des candidats, cependant, a montré un grand potentiel. C'est un homme capable et plein de ressources. Il a bon contact, un esprit d'affaires aiguisé, des appuis en haut lieu. Il est hautement motivé, ambitieux et plein d'idées. Nous vous recommandons Judas Iscario comme votre directeur et votre bras droit. Tous les autres profils parlent d'eux-mêmes. Nous vous souhaitons du succès dans votre nouvelle entreprise. Et c'est vrai que quand vous regardez ces 12 disciples, vous dites, mais en fait, il manquait soit de sagesse, soit d'autorité, soit d'intelligence. Il se comportait mal. Enfin, c'était terrible. Le panneau est terrible. Le tableau est terrible quand on se dit, mais c'est eux qui vont faire les piliers de l'Église de Jésus-Christ. C'est eux qui vont poser les fondements de l'Église de Jésus-Christ, hein, puisque les apôtres ont posé les fondements. C'est terrible. Et pourtant, c'est ces hommes-là que Dieu a choisis. Est-ce que nous aurions misé sur un Simon-Pierre qui renie le Seigneur ? Enfin, après ça, après l'avoir vu renier, est-ce que vous alliez parier sur cet homme-là ? Et pourtant, Dieu le prend et Dieu fait quelque chose avec lui. Qu'est-ce qu'on aurait misé aussi sur Jean, fils du tonnerre, hein ? C'était les fils du tonnerre, voulant être assis à la droite de Jésus ou à côté de Jésus, aux dépens des autres. On n'aurait pas misé sur lui. Et pourtant, Dieu le choisit et Dieu le transforme. Et Dieu lui donne d'écrire un évangile, trois épîtres, l'Apocalypse. Et puis, quels écrits, hein, dans la parole de Dieu. Et après, on dit l'apôtre de l'amour. C'est touchant pour un fils du tonnerre. L'apôtre de l'amour, c'est lui qui nous parlera le mieux de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous aurions misé plus tard sur un Saul de Tarse ? Et pourtant, ce Saul va devenir Paul, doux, humble et un exemple pour toute l'Église de Jésus-Christ, bien qu'il se dit lui-même, hein, le dernier des derniers parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Alors oui, Dieu se sert de ce qui ne semble pas pouvoir servir, de ce qui semble complètement inutile et dont on ne peut rien faire. Il se plaît justement à prendre des choses qui sont inutiles, à les transformer et à les rendre utiles. Comme Onésime, vous savez, dans l'épître à Philémon, Onésime qui autrefois t'a été inutile et qui maintenant t'est utile. Onésime qui était un esclave, mais Dieu l'a libéré et l'a rendu utile. Et de la même manière, Dieu nous prend tel que nous sommes, esclaves parfois, il nous libère. Il nous prend avec, malheureusement, nos faiblesses. On est insignifiant, on est petit, mais Dieu nous prend, Dieu nous transforme quand on se laisse faire. Et après, eh bien, il nous rend utile et se sert de nous pour se glorifier. La deuxième chose qu'on peut voir ensemble, c'est que l'œuvre de Dieu est lente. Elle prend du temps. Elle prend toujours du temps. On ne devient pas utile en deux temps, trois mouvements. Hop, ça y est, efficace. Mais ça prend toujours du temps. Dieu fait toujours une œuvre avec le temps. Et c'est vrai dans les exemples, si vous prenez les apôtres ou les exemples que j'ai donnés, c'est vrai dans d'autres exemples. Et j'aimerais prendre Joseph, donc fils de Jacob. Joseph, c'était l'avant-dernier fils, celui que Jacob aimait parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et c'était aussi celui que les frères méprisaient, qu'ils haïssaient, celui qu'ils ont vendu donc à une caravane d'Ismaélites. Ils se sont débarrassés du frère encombrant. C'est bon, on n'en entendra plus parler de celui-là. Mais finalement, le plan de Dieu les dépassait complètement. Et Joseph va suivre un parcours qui va s'avérer être une formation, en fait. Il est en formation entre les mains de Dieu. Une formation qui va être longue. Une formation difficile, faite d'injustice, d'ingratitude, d'oubli. Hein, on l'a oublié en prison. Mais finalement, ça va déboucher sur un service et une élévation qui était inattendue. Et Joseph s'est retrouvé à la tête de toute l'Égypte, deuxième après Pharaon. Donc le petit frère, là, est devenu la délivrance de toute une famille, et puis on peut dire de tout un peuple, puisque ça va donner la nation d'Israël, le peuple d'Israël. Et donc Dieu a pris un jeune homme petit, insignifiant, peu qualifié, et par un long parcours de détours et de retard, il va finalement l'élever à une position où il va pouvoir se servir de lui. Mais ça a pris du temps. Et il faut apprendre aussi à marcher au pas du Seigneur, à avancer avec patience. Même si on ne sait pas toujours où ça nous mène, on avance avec lui. Joseph a servi Dieu chez Potiphar. Il a servi Dieu dans la prison. Et puis après, Dieu a pu se servir de lui. Et donc, on commence à servir là où on est. Et même si on ne comprend pas encore, mais on sert. Et puis finalement, ça débouche vers quelque chose qui glorifie le Seigneur. Pierre et Jean, ils ne sont pas devenus non plus des disciples accomplis en 6 mois. Et Paul, il n'est pas devenu l'apôtre qu'il était comme ça rapidement. Il faut penser que dans Galates, il dit qu'il a fait un séjour en Arabie. Il a eu aussi un temps au désert où Dieu l'a façonné, Dieu l'a travaillé, et finalement, il a fait de lui l'apôtre qu'il était. Dieu ne fait pas les choses aussi vite que nous le voudrions. Mais peut-être parce qu'il veut faire une œuvre qui est profonde, qui est durable, une œuvre solide, une œuvre où il n'aura pas besoin de revenir, parce que ça y est, c'est ancré, c'est vraiment gravé en nous, c'est solide. Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18, il est dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Et on peut dire que la vie chrétienne, elle est ainsi faite. C'est un sentier qui avance et la lumière croît petit à petit, au fur et à mesure et de plus en plus. Logiquement et naturellement, dans la mesure bien sûr de notre obéissance, notre volonté de marcher avec le Seigneur, alors eh bien, il nous change. Et voilà, la lumière se fait de plus en plus claire. On devient de plus en plus dépendant de lui et de fait, de plus en plus utile pour lui. Mais ça prend du temps. Et peut-être, je me disais, les personnes qui comprennent le mieux cela, c'est ceux et celles qui travaillent la terre, les agriculteurs. Un agriculteur, il ne peut pas sauter des étapes, ce n'est pas possible. Il ne peut pas se dire, allez, cette année, je vais planter en hiver, comme ça j'aurai 2 récoltes. Non, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Il attend la bonne saison et puis il plante. Une fois que ça commence à germer, il ne peut pas tirer sur la tige. Allez, il faut que ça sorte. Et puis, il y a du temps, on prend du soin, il faut de la patience, puis finalement le fruit arrive, ça y est. Mais il ne peut pas le prendre et à l'avance, sinon il le prend, il n'est pas mûr. Donc il doit attendre encore qu'il mûrisse. Et pour qu'il soit meilleur encore, c'est mieux qu'il mûrisse même sur la branche. Mais vient le temps où ça y est, il y a la moisson, là, il y a la vendange ou la cueillette. Mais les impatients se lassent, ils doutent et parfois ils méprisent. Et méprise. Et j'arrive au troisième point. Penser comme Dieu, c'est garder de se mépriser des petits, des faibles commencements. Regardez Zacharie 4 et versets 8 à 10. Zacharie 4, verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et c'est quelque chose de fréquent pour l'homme de mépriser ce qui lui semble faible, sans force, sans éclat. C'est humain, en fait. Hein? Voilà, on marche comme ça. Mais c'est aussi charnel. C'est aussi charnel. Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Pour comprendre ce verset de Zacharie, il faut remettre les choses dans leur contexte. Où on place ce passage. Donc, on est ici à la reconstruction du temple. Donc, c'est le deuxième temple. Il y a eu le premier temple bâti par Salomon. Un temple magnifique. Un temple qui avait été même déjà préparé par David. Hein. Il avait tout préparé. Et finalement, Salomon a pris le temps. Il a choisi les meilleurs hommes, les hommes remplis de l'esprit. Et puis, ils ont fait un temple magnifique. Un temple ouvragé, un temple somptueux. Et puis à l'intérieur, il y avait tous les ustensiles. Il y avait l'arche de l'Alliance, la table des pains de proposition, il y avait le chandelier, là. Tout était magnifique. Mais Nebuchadnezzar est venu, il a détruit le temple, il a pillé, détruit. Et puis il y a eu la déportation à Babylone. Et là, après ce jugement sur Israël, Zorobabel a reçu l'autorisation du roi Cyrus de revenir à Jérusalem et de rebâtir le temple de l'Éternel. Et donc, il va se mettre à l'ouvrage avec Josué, le sacrificateur. Alors, les travaux avancent bien, mais on n'est plus à l'âge d'or du temps de Salomon. Maintenant, c'est après la déportation. Et là, on s'aperçoit que la reconstruction du deuxième temple n'a rien à voir avec la gloire du premier temple. Loin de là. L'Arche de l'Alliance a disparu. On ne sait plus où elle est. Elle a été volée, elle a disparu. Les ustensiles, la plupart, ont été détruits ou volés. Et puis, ce n'est plus aussi artistement travaillé hein, que ce fut. Donc, la valeur et la splendeur de ce deuxième temple, ce n'est plus la même. Alors, si bien que certains pleurent. Ils ont le sentiment, ça y est, c'est fini, c'est passé. On ne retrouvera plus ce qu'on a connu. L'heure de gloire est passée. Mais d'une manière prophétique, Zacharie dit « Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Je vous donne une autre traduction pour rester figé sur cette traduction qui donne une seule phrase. Donc la traduction d'Arbi dit « Car qui a méprisé le jour des petites choses ?» Ils se réjouiront, ces sept-là, et verront le plomb dans la main de Zorobabel. Ça veut dire, certes, ce sera un faible commencement, cette reconstruction du temple de Jérusalem, mais il y aura quand même de la joie à voir que, ben, ça y est, le temple est en train de se rebâtir. Et Dieu peut permettre des faibles commencements, des débuts insignifiants, et accorder à terme une fin à la hauteur de son nom qui est digne. Dieu peut le faire. Regardez l'encouragement que Dieu donne à Zorobabel par le prophète Agé. Si vous êtes dans Zacharie, c'est juste deux pages avant. Il y a le prophète Agé, chapitre 2 et versets 1 à 5. Un encouragement magnifique pour Zorobabel et pour Josué. Agé 2, versets 1 à 5. Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. « Parle à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadzak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Et comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Et quel bel encouragement ici pour ces hommes qui avaient commencé une belle œuvre, hein, reconstruire le temple de Jérusalem, mais qui se disaient, mais à quoi bon, quoi ? Est-ce que c'est bien utile ? Quand ils entendaient eh bien, les plus âgés parmi eux qui avaient connu la première gloire et qui pleuraient, et qui se disaient, enfin, c'est beau, oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Alors eux, découragés, ils étaient. Vous savez, parfois, dans le bricolage, Je ne sais pas si vous êtes bricoleur. Hein. Dans le bricolage, vous pensez un truc. Vous dites, ah ouais, je vais faire ça, ça va être bien et ça va être impeccable. Moi, j'ai fait une cabane pour mes enfants au fond du jardin. Donc, c'est une cabane un peu sur pilotis, là, mon petit truc, hein, avec un toboggan. Et puis, en dessous, j'avais une place perdue. Et je me suis dit, bon, ben, je vais fermer. Et puis, je vais faire un endroit sec où je vais pouvoir mettre des choses. Hein. Donc, meuble à partie, je fais une petite dalle vite fait. Je ferme. Hein, et puis, vous savez, la pluie, pour l'arrêter, quand ce n'est pas prévu pour. Et finalement, c'est impossible. J'ai tout essayé. Impossible. C'est toujours trempé. La dernière fois qu'il a plu, c'était un seau complet à l'intérieur. Donc, c'est complètement raté. Et des fois, vous pensez à quelque chose et c'est facile dans la pensée de se dire, voilà, je vais faire ça. Mais après, dans la réalisation, c'est autre chose. C'est comme dans le dessin. Parfois, on aime bien dessiner et on se dit, ah ben, oh, je vais faire ça. Puis on commence à dessiner et puis ben, le résultat, c'est pas comme dans notre pensée, parce que dans notre imagination, c'est parfait. On imagine les choses, c'est vraiment parfait. Et certainement, Zorobabel et Josué étaient motivés. On va rebâtir le temple, on y va. Ils arrivent, ils se mettent à l'ouvrage, ils font le maximum. Mais le résultat n'est pas à la hauteur du rêve qu'ils avaient. Ça n'avait rien à voir, la gloire n'avait rien à voir avec le premier temple. Pas d'arche. Imaginez le Saint des Saints vide. Qu'est-ce que ça fait? Le Saint des Saints vide. C'est quelque chose. Alors, eh bien, certains étaient dans la joie quand même et d'autres étaient découragés. Il y avait des pleurs. Hein. Et Dieu leur dit, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier. Et travaillez, je suis avec vous. Je reste fidèle à l'Alliance et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Quel encouragement! Un encouragement comme seul le Seigneur sait le faire. À toujours persévérer quand on se sait dans la volonté de Dieu parce que Dieu est fidèle. Même si ce n'est pas à la hauteur de nos espérances, mais ce n'est pas grave. Travaillez, travaillez, car je suis avec vous. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Qu'est-ce qu'il y a de plus encourageant? S'il est avec nous, ça nous suffit. On va lire la suite de Agé 2, versets 6 à 9. Agé 2, versets 6 à 9. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. » Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc Agé, ici, donne une vision qui est prophétique. Dieu ébranlera le ciel et la terre. Là, il est en train de parler de la tribulation dans l'Apocalypse. Grande tribulation où Dieu va juger, il va juger les nations. Mais ensuite, on entre dans le millénium. Elles viendront apporter tout leur trésor. Elles viendront à Jérusalem. Et là, ce sera un temple avec une gloire encore plus grande que celle de Salomon. Un temple complètement différent. Et Christ règnera. Et les nations viendront se prosterner devant lui, dit la Bible. Alors oui, Zorobabel et Josué n'allaient pas voir ce temple, ce dernier temple. Mais c'est un encouragement à œuvrer fidèlement. Parce que finalement, on est des petits maillons dans le plan de Dieu, le vaste plan de Dieu. Chacun est un petit maillon et notre part, elle est infime, elle est minuscule, elle est peut-être comme un faible commencement. Mais il faut regarder l'ensemble de la fresque, l'ensemble du plan de Dieu. Et c'est ça qui est beau, c'est de tout regarder ensemble. Alors, il y a une petite part ici, une petite part là, mais l'ensemble de tous ces petites parts, eh bien, fait que c'est une œuvre qui est belle, qui est glorieuse. Juste une autre illustration. Vous vous souvenez donc il y a eu la reconstruction du temple et puis ensuite il y a eu la reconstruction des murailles de Jérusalem. Cette fois, vous lisez ça dans le livre de Néhémie. Et là aussi, il y a eu beaucoup de moqueries et de mépris dans cette reconstruction. Je vous lis un extrait simplement. Sambalat se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et dit, « Qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » De nouveau, des mépris, de la moquerie à ceux qui bâtissaient. Mais Néhémie et ses hommes se fortifièrent et continuèrent à bâtir l'ouvrage fidèlement et ils achevèrent. Ils ont achevé la muraille. Et il ne faut pas mépriser les faibles commencements et ne pas se décourager quand on commence une entreprise et puis le résultat n'est pas escompté. Travaillez, je suis avec vous, dit le Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 27. Verset 27 à 29. Il dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Et là, on voit encore que Dieu se plaît à prendre des choses folles, des choses faibles, des choses viles pour les uns, pour aller confondre les autres. Et si on se sent dans cette première catégorie de faibles, de viles, de méprisés, alors il y a de l'espérance, parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, et ça, c'est plus précieux que tout. Et à l'approche de Noël, j'aimerais terminer avec l'exemple de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, dans Ésaïe 53, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Donc c'était aussi un faible commencement. C'était un tout petit commencement, un commencement, on peut dire, qui était sans force. Et Dieu ne nous l'a pas caché. Il nous l'a montré comme cela. Jésus aurait très bien pu se présenter à l'humanité en tant qu'homme adulte, à 33 ans, ou à 30 ans, pardon. Il aurait pu se présenter comme cela, et puis faire ses miracles, et voilà. Mais c'est parce que Dieu a choisi. Sa naissance ne nous a pas été cachée. Au lieu de cela, Dieu a mis les feux de la rampe sur une crèche et sur un petit enfant qui était faible, qui était fragile, qui était peu de choses aux yeux du monde, quelque chose de, voilà, insignifiant, un faible commencement. Mais avec le temps, avec la patience, le petit enfant est devenu un homme. Et quel homme ! Quel homme ! Il s'est révélé le Fils venu du Père. Et il a accompli l'œuvre la plus belle et la plus grande qui soit, mourir pour les péchés des hommes, verser son sang pour les coupables, afin qu'on puisse obtenir le pardon des péchés. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Dieu nous a prouvé, nous a démontré son amour en ce qu'il est venu et il a versé son sang pour nous, pour que nous puissions être pardonnés, lavés de nos péchés. Alors, eh bien, voilà, si vous vous sentez faible, fortifiez-vous, prenez courage, travaillez. Le Seigneur est avec vous.